marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Êtes-vous prêt à voir ce que vous ne voyez pas? Venez, venez, jusqu'au sourd de notre histoire.
Des chemins sonores pour raconter l'histoire.
Salut étranger, bienvenue dans la vallée du Haut-Bréda. Il faut que tu saches que nous suivons la rivière qu'on nomme le Bréda. Mais pour le meilleur et pour le pire, nous avons célébré l'alliance du fer et de l'eau.
Eh, fouet, ouvre donc un peu plus le véal, Clévageux. Que j'augmente le rythme de mon martinet. Faut que je finisse cette pioche avant la nuit.
Suivez-moi. Ici, nous sommes en 1883. Les industriels investissent le massif de Belledonne pour la production de l'électricité.
Fils, ce sont nos turbines qui tourneront bientôt au pied des sept lots.
Êtes-vous prêt à voir ce que vous ne voyez pas? Venez, venez.
Pour retrouver l'histoire d'un paysage, vous disposiez jusqu'ici de votre œil. Vous observiez, vous lisiez les noms des lieux sur les panneaux ou ceux des habitants d'autrefois sur les plaques mémorielles. Vous allez de plus en plus pouvoir écouter. Ce sera une autre façon pour le passé de se raconter. Vous allez pouvoir explorer le pays avec application. Explication et exemple. Une expérience pionnière nous est venue il y a quelques années d'une vallée qui, à l'ancienne frontière du Dauphiné et de la Savoie, était si isolée qu'on l'appelait cul de France, fond de France. Riche en eau, en bois et en minerais de fer, elle s'était vouée à la métallurgie. Elle fut pendant la Deuxième Guerre un refuge pour les indésirables et les maquisards. C'est maintenant un petit paradis pour les randonneurs et les skieurs. Vous y promenant à pied ou en raquette l'hiver, vous pouvez découvrir sur votre chemin une quinzaine de totems. Si votre iPhone est muni de l'application Flashcode, vous avez le loisir de déclencher à chaque totem un récit sonore qui vous fait entendre ce qu'on ne voit plus dans la vallée, le travail de la mine et celui des champs, la frappe des martinets au bord de l'eau et les coupes dans la forêt. À Fond de France, on parle modestement de sentier sonore. Dans la capitale, où nous allons revenir inévitablement, une balade sonore vient d'être mise au point qui nous permet de rencontrer les gens de la scène du XVIIe ou du XVIIIe siècle. D'autres initiatives surgiront. Les unes seront le fait d'amateurs, au meilleur sens du mot. L'équipe de Joyeux de Riz de Fond de France travaille sous le regard d'un historien local d'une qualité exceptionnelle qu'elle surnomme Haut-Bréda Universalis. Les autres, comme Jean de la Seine, sont composés dès le départ de chercheuses engagées dans les enjeux présents. Il n'y a pas de raison que les nouveaux usages de la médiation historique soient captés par des start-up qui, au prétexte qu'elles maîtriseraient le numérique, se contenteraient d'un contenu trop pauvre.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Donc nous avons affaire comme invité à une pionnière, on l'a compris, c'est Isabelle Bacouche. Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez depuis longtemps sur le fil de la Seine, fleuve plus puissant que le torrent du Haut-Bréda que j'évoquais au début de l'émission. Vous êtes aussi une historienne de la ville, des centres urbains, non ?
Oui, c'est la ville qui est effectivement mon attache en tant qu'historienne. Et donc le cœur de la ville, le fleuve à mes débuts, la zone aujourd'hui, et puis la relation aussi avec des questions d'immobilier pendant la Seconde Guerre mondiale.
Oui, puisque vous avez écrit sur un îlot jugé depuis longtemps insalubre, mais qui dans le Marais se trouvait abriter, accueillir beaucoup de Juifs qui vont être expulsés dans les circonstances que l'on sait. Je voudrais que vous nous racontiez d'abord votre manière traditionnelle, qui est la nôtre, peut-être de flâner, bon, les plaques, les noms des rues, et les sucettes. Vous avez le goût des sucettes, Isabelle Bacouche? Vous allez nous expliquer, à nous autres qui ne sommes pas tous nécessairement parisiens, ce que sont les sucettes à Paris.
Les sucettes, qui s'appellent, selon la société qui les a installées, des histoires de cité. Ça a été fait avec un historien de Paris, Michel Fleury, dans les années 80-90. C'est donc ces panneaux de forme oblongue marron que vous voyez devant des sites, des monuments, des endroits inattendus qui rappellent en fait soit les monuments, soit les activités qui étaient installées auparavant sur le territoire parisien.
Alors parfois, certaines ne sont pas académiques. Naissance du métro, avenue de la Grande Armée, la Sucette signale que Fulgence Bienvenu fut le professeur de maths du père de Foucault, par exemple. Mais ces sucettes qui étaient entretenues par une société dont vous avez tué le nom, sont peu à peu abandonnées. Cette société, maintenant, n'a plus de bons rapports avec la ville de Paris. Et Bertrand Delanoë, dès 2009, avait dit « faut faire à la place des sucettes, qui ne sont pas remplacées quand elles sont enlevées à l'occasion d'un chantier, des bornes interactives ».
Oui, c'était voir avec le numérique et utiliser cet outil pour faire comprendre et découvrir l'histoire du territoire parisien et de ses habitants.
Que 100 initiatives numériques naissent. Avant qu'on ne présente Jean de la Seine plus précisément, Isabelle Bacouche, vous permettrez qu'on suive avec Franck Olivard une conférence itinérante de deuxième année de Sciences Po. C'est une sorte d'atelier d'urbanité, et Pascal François, qui l'anime, a décidé de faire parcourir l'axe nord-sud traditionnel de la capitale à ses étudiants, la rue Saint-Jacques.
Nous allons rencontrer des étudiants de deuxième année de Sciences Po. Alors, ils vont d'abord travailler dans un premier temps sur la rue Saint-Jacques, dans la partie qui est la partie donc autour de l'Institut de Géo, pour s'interroger sur le tracé. Et donc de se demander à un moment donné pourquoi ce tracé rectiligne, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme enjeu d'histoire, et puis surtout pourquoi ça reste encore aujourd'hui un axe qui est un axe structurant donc de Paris. Vous avez tous chargé sur votre téléphone portable Easy Travel. Bon, vous acquiescez, ça me rassure. 2, vous avez tous chargé donc la visite qui s'appelle Géo Histoire de Paris, la rue Saint-Jacques. Bien, vous ouvrez donc cette visite. Maintenant, vous allez regarder d'abord la carte. Et sur cette carte, vous avez 11 lieux qui vous sont proposés. D'accord ? Ces 11 lieux sont tous reliés ensemble. Alors nous, on va d'abord s'interroger ici sur pourquoi cet aspect rectiligne. Vous avez vu que sur l'application, vous avez à la fois des lieux, vous avez des vidéos, vous les avez vues, vous avez exploré, vous avez regardé. Il y a une vidéo là d'entrée. On prend l'application, on regarde. On la prend là ici sur le lieu numéro 1. Et sur le lieu numéro 1, vous allez voir, il y a une vidéo qui est une vidéo de reconstitution 3D. Voilà, du Paris médiéval et du Paris. Bon, et nous, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va redescendre la rue. Quand je dis redescendre, parce qu'on va topographiquement donc aller vers la Seine. Et c'est là où vous allez, en regardant donc l'application, trouver des lieux qui jalonnent en fait cette réflexion sur comment, à un moment donné, l'histoire, la géohistoire, s'incarne dans des lieux et comment elle est instrumentalisée aujourd'hui, notamment par le tourisme. C'est bon ? C'est clair ? Eh bien alors, c'est parti, on y va.
Alors, Easy Travel, il a greffé Pascal François sur l'application son propre parcours, au risque d'être happé, imité, siphonné. Bon, et son propre parcours le mène le long de cet axe qui est extrêmement important quand on veut raconter la sédimentation de Paris.
Alors, la rue Saint-Jacques, effectivement, sur la rive gauche, c'est l'axe nord-sud hein, qui existe depuis les premiers temps de Paris, depuis la Lutèce et ensuite l'époque romaine. C'est la croisée de Paris et elle est commandée, cet axe, il explique qu'il est toujours pertinent, il est commandé par les lignes de pont, c'est-à-dire que la difficulté dès les premiers temps, c'était de traverser l'île de la Cité. Et donc, ce faubourg Saint-Jacques a été commandé par les lignes des ponts. Il a été renforcé par Haussmann, qui ensuite a redessiné notamment les axes qui les prolongent sur la rive droite. Et donc, pour Paris, c'est les axes nord-sud les plus structurants encore aujourd'hui.
Et bien, alors, ce qui est passionnant, c'est de regarder la succession des couches. C'était une voie romaine qui menait à Orléans. Il y a quelques dalles de cette voie romaine qui sont sur le parvis de l'église Saint-Julien-le-Pauvre. Une historienne est persuadée que rien n'est complètement supprimé, ne disparaît totalement.
Ça, c'est, je pense, que ce qu'il veut faire avec sa balade et ce qu'on veut faire, c'est que dans la ville, il n'y a jamais un décapage total des époques antérieures. Mais il faut parfois attirer l'attention du visiteur pour lui montrer qu'il y a des éléments qui subsistent, des réappropriations, des traces finalement du passé qui racontent et qui disent beaucoup sur ce qu'a pu être Paris et ses activités.
Vous feriez une visite du Marais qui serait nourrie par le livre que vous avez écrit sur la destruction de l'îlot insalubre. Vous trouveriez des traces à montrer de l'ancien habitat des Juifs expulsés.
Ah oui, on trouverait des traces des hôtels aristocratiques, on trouverait des traces ensuite de ces ateliers qui sont installés. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est l'objectif de mes recherches, c'est de montrer cette sédimentation, ces réappropriations et cette intrication de moments différents.
Même dans ce qui est dégagé pour que le touriste puisse déambuler à l'aise. Le parcours de Pascal François avec ses étudiants de Sciences Po, descendu de l'Institut de géographie en haut de la rue Saint-Jacques, se termine bien naturellement sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame.
Vous allez surtout parcourir donc le parvis et regardez bien au sol. Hein, pour le coup, l'avenir n'est pas dans les nuages.
Comment vous vivez cette expérience alors d'histoire géolocalisée, puisque c'est le terme ?
On cherche les inscriptions donc, des rues médiévales qui sont encore sur le pavé du parvis Notre-Dame. Et voir un peu justement la mémoire médiévale qui est conservée alors que le parvis maintenant est totalement vide en quelque sorte de toute maison.
On n'a plus besoin de l'application ?
Non, pas pour l'instant. Juste observer, je pense que c'est le plus important. On voit une ancienne rue, donc la rue de Venise, qui est marquée dans le pavé. Par contre, il y a beaucoup d'inscriptions autour. J'ai vu le gros tournoi, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Enfin, je ne sais pas si vous avez des idées.
Non, pas du tout.
Il faudrait qu'on fasse quelques recherches, je pense, ce soir. Ben, je pense que c'était une rue vraiment très étroite, avec beaucoup de maisons médiévales. C'est vrai que j'avais vu quelques reconstitutions de Paris à l'époque de la construction de la cathédrale. Et bon, à mon avis, la rue était déjà assez large pour l'époque, mais la vue n'était pas dégagée sur la cathédrale parce qu'on voit finalement le parvis de l'époque était très réduit. C'était à peine même pas une vingtaine de mètres de visibilité. Donc elle devait être masquée par toutes les maisons colombages.
Mais maintenant, monumentalisation, touristification.
Oui, bah, le parvis de Notre-Dame, c'est un des exemples de ce qu'on peut radicalement faire dans un espace urbain. Haussmann l'a totalement dégagé au 19e siècle. Le jeune étudiant disait qu'effectivement, il faut imaginer qu'avant, on n'avait aucun recul face à Notre-Dame et que c'était, il y avait une vingtaine d'églises, plus des maisons autour de Notre-Dame et que c'était délibéré. C'est-à-dire que pour admirer la façade de Notre-Dame, il fallait lever les yeux et il y avait une forme de domination finalement du monument religieux sur le croyant. Donc c'était cette relation presque physique et visuelle qui était importante. Au 19e siècle, on a basculé, il fallait qu'on puisse admirer les monuments qui commençaient à devenir des monuments historiques. Et là, il y a eu un basculement total qui a des impacts sur la ville et sur l'expérience qu'on peut en faire quand on s'y promène.
Alors nous, on va changer d'axe dans cette présentation de balade sonore parisienne, axe est-ouest. Les gens de la Seine, c'est le thème d'une visite que vous organisez en 19 étapes. Alors, application là encore ?
Alors, c'est une application, effectivement, c'est-à-dire des bulles sonores qu'on a réalisées. J'étais donc, on va dire, conseillère scientifique à partir de mes travaux. Ensuite, il y a Michel Cohen a écrit les textes que vous entendrez en français et en anglais. Tout ça est disponible gratuitement. Et on est géolocalisé, donc si vous partez de l'Institut du Monde Arabe pour aller jusqu'à la Concorde, vous avez 19 bulles où vous entendez des gens, c'est-à-dire des Parisiens et des Parisiennes qui travaillaient sur le fleuve et qui vous racontent leur expérience sur la Seine.
Et alors, ça nécessite une application ?
Alors, on peut les écouter de chez soi, hein, avec le lien jeandelaseine.fr.
Il y a même un livre chez Hachette qui permet de...
Un petit guide bleu que j'ai réalisé. Et voilà, on peut flasher les QR codes et écouter les bulles sonores. Mais on peut aussi être géolocalisé et écouter au fur et à mesure qu'on avance sur les berges qui sont aujourd'hui en plus piétonnisées sur la rive droite. Donc, ça permet d'agrémenter la balade.
Alors, nous, on a agrémenté quelques-unes de vos 19 étapes avec une chanson historique de Lucienne Delisle. Et ce qu'on entend ensuite vient de votre source.
J'adore les quais de la Seine, à la mine sereine des petits marchands. Le calme du vieux bouquiniste dressant une liste d'un vendu charmant. Par là, dans le soir, se promène l'ombre de Verlaine, poussée par le chant des violons qui la fenêtre et qui font connaître l'automne aux passants.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Jean de la Seine.
Les noyés.
Vous êtes sous le pont de la Tournelle. Trouvez un siège. Installez-vous bien. Nous allons vous raconter les histoires délicieuses de tous ces Parisiens qui ont failli se noyer dans la Seine au XVIIIe siècle. C'est que très peu de monde savait nager à l'époque. Prenez par exemple le nommé Michel Kern, gagne-denier, demeurant rue Jean de Lépine en chambre garnie.
Nous avons demandé aux particuliers que nous avons effectivement reconnus être pris de boissons et ivres d'eau de vie par les propos qu'il nous a tenus, s'il pouvait nous déclarer comment l'accident lui était arrivé. Il nous a dit que, ayant des clous à ses souliers qui le gênaient, il les avait quittés pour être plus à son aise et avait été trop près du bord que la tête lui avait tourné et était tombée dans l'eau.
Alors Jean de la Seine, bon, ce sont des sources, des textes composés avec Sarah Gainsbourger, une directrice artistique, Michel Cohen, parce que tout est dans le plouf.
Voilà, les historiens ne peuvent pas tout faire, il faut qu'ils en aient conscience, donc il y a des documents d'archives, on est soucieuse de montrer comment l'histoire se fabrique à partir de ces petites bulles sonores. Mais il faut que le texte soit audible, qu'il soit entre 2 et 3 minutes. Et donc, c'est Michel Cohen qui a écrit à partir des matériaux que je lui ai fournis. Et ensuite, les bulles ont été enregistrées avec des comédiens en studio, ce qui permet d'avoir ce produit, on va dire, qui donne envie d'aller se promener sur la Seine et de découvrir l'histoire du fleuve.
Mais j'insiste, je prends l'exemple de Fonds-de-France. On n'a pas besoin d'être universitaire, on n'a pas besoin d'être comédien professionnel, de s'appeler Monsieur et d'être à la Comédie française. On peut faire ça, si c'est sérieux, dans tous les endroits de France,
bien
avec
sûr,
des équipes motivées et constituées.
Surtout que les outils sont disponibles, donc c'est assez facile de mettre à disposition son savoir avec ces nouveaux outils numériques.
Alors, les noyés, là, nous étions au point 4. Il y a 19 points.
Oui.
Dans cette balade sonore, ça commence quai d'Austerlitz et ça va finir pont de la Concorde. Alors, nous sommes maintenant quai de la Corse, étape numéro 12 de Jean de la Seine.
Jean de la Seine.
Les teinturiers.
Le long du quai de Corse, au nord de l'île de la Cité, où vous êtes en ce moment, ils étaient une dizaine de teinturiers à la fin du XVIIIe siècle à exercer leur métier dans de vastes ateliers qui avaient les pieds dans l'eau. Ils y teignaient des soies, des étoffes, des chapeaux. Et pour cela, ils avaient besoin en effet d'être proches de la rivière, de travailler dans des bateaux pour laver les étoffes, d'être exposés au nord pour préserver les couleurs. Ils avaient depuis très longtemps, depuis le roi Hugues Capet, si ce nom vous rappelle un souvenir d'école, le privilège d'avoir des bateaux sur la rivière sans payer de taxes à la ville. Ils seront chassés, parce qu'on les accuse de polluer l'eau avec leur teinture et d'empêcher un accès public au fleuve. À la place, on construira des quais.
Alors l'aménagement des quais.
Alors voilà, les teinturiers, cette bulle, elle a plusieurs intérêts. D'abord, elle nous rappelle qu'il y avait des métiers et des communautés qui travaillaient sur le fleuve. Et ces teinturiers avaient donc des maisons, les pieds dans l'eau. Donc il n'y avait pas au XVIIIe siècle de ligne de quai continue. Elle sera réalisée seulement au XIXe siècle. Et le paysage de la Seine au XVIIIe siècle, c'est des grèves qui descendent en pente douce. Et en fait, les 19 bulles sont vivantes, elles permettent d'incarner l'histoire dans l'espace parisien. Mais si on écoute les 19, il y a un propos qui est de rappeler aux visiteurs que la Seine, entre le 18e et le 19e siècle, a totalement changé dans ses relations avec la ville. On l'a dit, là, le quai remplace les teinturiers. Et donc, tous ces gens qui travaillaient sur le fleuve et qui fréquentaient la Seine ont été chassés, puisqu'on a décidé au XVIIIe siècle de faire de la Seine une voie de navigation à intérêt national, on va dire.
L'eau est conquise.
Voilà, l'eau est conquise, elle va être canalisée par des quais qui permettent de lutter contre les crues. Ça n'empêchera pas une crue mémorable en 1910. Mais il y a une domestication de l'eau, alors qu'auparavant, les Parisiens vivaient en grande proximité avec elle, ce qui explique d'ailleurs le nombre de noyés assez important.
La différenciation par les ponts.
Alors, il y avait moins de ponts qu'aujourd'hui sur le fleuve, mais beaucoup de ponts étaient construits avec des immeubles de 5 étages. Et donc, plutôt qu'un fleuve qui traverse la ville, on avait des bassins successifs avec chacun leurs activités. Et c'est un peu cela qu'on a voulu restituer à travers les bulles sonores.
Et comment avez-vous trouvé les archives concernant les classes populaires qui sont un peu les héroïnes de votre parcours Jean de Seine?
Alors, les gens de la Seine et les parcours, d'autres parcours d'ailleurs qu'on a déjà réalisés, c'est aussi une façon de mettre en valeur une histoire sociale que je pratique avec d'autres, mais avec Sarah Gainsburger, et donc d'être attentif à tous les points de vue des acteurs auxquels on s'intéresse, et notamment les plus modestes qui sont rarement audibles. Il se trouve que dans les archives sur lesquelles j'ai travaillé, on trouve des mémoires qui étaient non pas écrits directement par ces gens modestes, mais qui faisaient écrire et qui s'adressent au roi parce qu'ils ne veulent pas être chassés du bord de la Seine.
Mais chaque fois que je visitais un monument avec mon père, il disait « Oh là là, qu'est-ce que ça représente comme travail ?» Parce que lui, il œuvrait de ses mains. C'est ce contact entre le travailleur d'autrefois et le travailleur d'aujourd'hui aussi que vous comptez établir.
Oui, parce que notre idée avec ce média et cette façon de diffuser notre savoir, c'est aussi de toucher un public de plus en plus large. Aujourd'hui, bon, le smartphone, c'est quand même un outil quasiment... Et donc, on veut faire entendre une diversité de points de vue, notamment celui des catégories sociales les plus modestes, en espérant agrandir le cercle de ceux qui peuvent s'intéresser à l'histoire de Paris.
Alors nous sommes un peu plus loin maintenant dans votre parcours, et voici que nous est présentée une dame dont vous avez découvert vous-même comme une grande l'existence. Nous sommes quai des Grands Augustins, c'est l'épisode numéro 14 de Jean de la Seine.
Jean de la Seine,
la veuve Marchand, vendeuse de loterie.
Quai des Grands Augustins, vous venez d'arriver. C'est le moment de faire connaissance avec la veuve Marchand, qui a occupé ce morceau de quai tous les jours entre 1780 et 1785. Elle était là, par tous les temps, avec ses 2 tréteaux et son bout de planche. Elle vendait des billets de loterie. Elle connaissait tout le monde et tout le monde la connaissait. Alors forcément, le jour on lui demande de partir, parce que des échoppes comme la sienne, il y en a des centaines qui encombrent le quai. Que c'est du désordre, qu'elle ne paie pas de loyer, que c'est illégal. Ce jour-là, elle se rend chez l'écrivain public et lui demande d'écrire pour elle au roi.
La veuve Marchand, pénétrée de respect pour tout ce qui émane de votre grandeur, la supplie de vouloir bien considérer que la distribution des billets des dites loteries est la seule et unique ressource qu'elle a pour vivre, que le déplacement de son bureau lui deviendrait fort onéreux, non seulement par le loyer qui lui en coûterait ailleurs, mais par toutes les occasions perdues de vendre ses billets ici, où le public est habitué à la voir tous les jours, depuis nombre d'années.
La veuve Marchand a perdu, bien sûr. Comme tous ses collègues des bords du fleuve, vendeurs d'oranges, de marrons, de broderies, de quincailleries. Leurs installations bricolées et précaires sont jugées de plus en plus indésirables par les autorités. Elles font concurrence aux commerçants établis qui paient loyer et impôts. Elles disparaîtront peu à peu. Aujourd'hui, seuls les bouquinistes, autorisés au XIXe siècle, font de la Seine le seul fleuve bordé de livres.
Il faut faire une place à la veuve Marchand parmi les morts. Et ça permet peut-être de libérer le présent, d'ailleurs. Isabelle Bacouche.
Alors la veuve Marchand, elle est le porte-parole de ce très beau mémoire que j'avais trouvé effectivement dans les archives. Elle, avec son écrit, elle montre tous ces motifs qui vont faire qu'on va chasser tous ces gens-là. Elle explique que c'est intéressant pour elle de vendre ses billets de loterie. Donc c'est une loterie royale, non pas nationale, qui existait déjà au XVIIIe siècle. Puisqu'il y a toujours affluence au bord du fleuve, on l'a un peu oublié, mais la Seine était un haut lieu parisien, tout le monde s'y rendait, on achetait ses provisions dans les bateaux qui étaient à quai, et donc pour elle, c'était le lieu idéal pour vendre ses billets de loterie. Donc La veuve marchand et tous ces petits marchands et tous ces métiers étaient les garants, on va dire, de la vitalité sociale du fleuve. Et cette balade sonore tente aussi de montrer que quand on visite une ville, il faut tenter de restituer et de retrouver aussi l'histoire de ceux qui y habitaient et pas seulement les monuments qui bordent la Seine, qui sont évidemment magnifiques, mais... Dans l'hôtel de la Monnaie, on pourrait aussi raconter, on n'a pas fait de bulle, mais tous ces métiers qui œuvraient depuis le XVIIIe siècle.
L'hôtel de la Monnaie, il est quand même occupé. Il y a un restaurant de luxe, des expositions.
Il y a encore quelques
d'art
ouvriers.
Contemporain. Enfin bon, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Alors là, on a compris déjà ce que vous n'aimez pas nécessairement. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la présentation historique des villes? Quand vous étiez petite, les sons et lumières, ça vous intéressait?
Oui, parce que c'est quand même magique, mais les sons et lumières et l'image en général attirent notre œil. Avec ces balades sonores, notre idée, c'est de mobiliser deux sens, on va dire. L'œil pour admirer la ville du présent et l'oreille pour entendre parler ceux qui l'habitaient dans le passé. Et c'est un mariage qui est assez fort et qui peut, je crois, susciter des voyages imaginaires assez importants.
Mais j'étais au musée de la Romanité à Nîmes l'autre jour, alors on voit depuis une baie les remparts, les traces des remparts de l'enceinte de la ville, mais il y a des reconstitutions en 3D qui vous permettent de vous situer depuis le point que vous habitez dans la ville, dans ce qu'était la ville autrefois, et c'est fascinant.
Oui, non. Les reconstitutions réalité augmentée 3D sont des expériences qui sont aussi fascinantes. Simplement, parfois, il y a un équilibre à trouver entre l'outil numérique et l'expérience urbaine qu'on fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit trop happé par l'outil ou absorbé par l'outil pour finalement oublier le paysage sonore, le paysage urbain dans lequel on est plongé. Donc c'est un équilibre qui est assez difficile à ménager. Si on passe son temps les yeux rivés sur un écran, on peut le faire chez soi, il n'y a pas besoin de le faire à l'extérieur. C'est un peu ça le pari et le défi.
Vous êtes là pour semer, Isabelle Bacouche, une de vos étudiantes, est de l'autre côté de la vitre, qui a beaucoup d'idées de parcours sonores qu'elle pourrait imaginer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à Paris encore? Je sais qu'il y a des balades sur le parcours de Paris homosexuel, le parcours de Paris criminel. Michel Cotta vient de sortir un petit livre sur le Paris de Mitterrand. Alors on pourrait faire la rive gauche selon François Mitterrand. Vous avez quelles idées?
Ah, Jean de la Seine, c'est le début d'une collection qu'on a appelée Jean de Paris. Simplement, avec Sarah Gainsbourger, on a un métier et donc c'est une activité qu'on fait en plus. Mais on a pensé à faire, on a travaillé déjà avec les équipes du Louvre pour faire Jean du Louvre et restituer toute l'histoire du palais. On a aussi commencé à travailler sur Jean du Sport pour montrer comment le sport s'était inscrit dans le territoire parisien. À l'horizon 2024, avant les JO, peut-être qu'on aura le temps de finir cette balade sportive et sonore dans Paris.
Mais on peut toujours s'accompagner d'un bon livre, d'un Baudelaire. Le vieux Paris n'est plus. La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Racontez-nous votre expérience de promeneuse dans Paris, avant tout ça, sans les sons et lumières et sans les écouteurs.
Je suis parisienne, donc c'est vrai que c'est une ville avec laquelle j'entretiens une relation très très forte. Je suis fascinée par sa capacité à se transformer très vite et en même temps, j'ai des points de repère dans l'île Saint-Louis, dans le quartier du Marais que je connais bien, mais aussi plus au nord vers Montmartre. Et c'est des flâneries que je refais sans cesse et on découvre tout le temps.
Et puis comme faisait Mitterrand, quand il y a un endroit qui avait été transformé, qui ne lui plaisait pas, il contournait ou il passait de l'autre côté du trottoir. C'était sa manière de marquer qu'il avait de la mémoire. L'émission était préparée avec des reportages par Franck Olivard, Stéphane Boja à la technique, Valérie Aïstaraï à la réalisation